Soudan, les revenus pétroliers représentent à peu près 98% des revenus de l'État. Donc, en prenant cette décision fin janvier 2012, le gouvernement sud-soudanais s'est en quelque sorte tiré une balle dans le pied et là, on a perdu plus d'une année en termes de développement et peut-être aussi de débat sur comment utiliser ces fonds. La situation au Nord-Soudan est là aussi très difficile. Évidemment, on peut en avoir une lecture politique, dire oui, bon, enfin, quand même, c'est normal, comme le régime à Khartoum n'est pas franchement sympathique, bon, on aurait tendance à penser que c'était plutôt une bonne nouvelle, mais il faut se rappeler quand même que la population au Nord-Soudan, qui n'est pas toujours responsable d'un régime qui a été adoubé en 2010 par la communauté internationale, cette population souffre beaucoup. Et évidemment, disons, les revenus pétroliers, même si une partie de ces derniers seront utilisés à des choses contestables, permettra quand même de mettre un peu d'huile dans le tissu social et d'éviter l'effondrement des services sociaux et peut-être de redonner un peu espoir à une population qui en a bien besoin.
Est-ce que malgré tout, on peut parler d'une bonne nouvelle pour les populations qui devraient être moins étranglées par ces pertes ?
Dans les deux cas, pas sous les mêmes formes, dans les deux cas, il y a une corruption extraordinaire, extraordinaire des élites dirigeantes. Et donc, évidemment, une bonne partie de cet argent, la partie significative de cet argent, va, disons, disparaître dans les poches d'un certain nombre de dirigeants et de leurs affidés pour entretenir les relations d'affaires qu'ils ont avec les uns ou les autres dans la grande région. Mais je crois qu'il faut aussi dire que quand même une autre partie de ces revenus vont permettre quand même de booster un peu la vie économique nationale dans les deux pays et d'une certaine façon, bon, ça sera bénéfique aux populations.
Et encore un autre point d'achoppement qui est la démarcation de la frontière. Est-ce que politiquement, les deux pays sont toujours au même point qu'avant cette annonce ?
Si vous voulez, c'est un peu la dynamique des négociations. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez dire que la méfiance entre les deux capitales reste énorme et que tout accord devra être le produit d'un accouchement au forceps avec une communauté internationale omniprésente, avec des menaces plus ou moins publiques de sanctions ou d'ajout à des sanctions, etc. Après, vous avez le miracle de la politique. Et il faut le dire, au Soudan, on l'a vu en 2005, enfin entre 2002 et 2005, ben finalement ça a aussi existé. C'est-à-dire que vous avez une dynamique de négociation et tout d'un coup vous avez des gens qui ne sont pas connus pour être particulièrement raisonnables d'un côté et de l'autre qui finalement arrivent à se mettre d'accord et sur la base d'accords conclus mais extrêmement fragiles arrivent à avancer, à progresser dans la négociation. Si j'étais un diplomate, je mettrais l'accent sur cette seconde interprétation, parce qu'elle laisse un espoir, elle montre que bon, les efforts de la communauté internationale et de la région a été considérable. Et donc, on peut avoir ces deux interprétations. Les événements vont décider laquelle des deux est éventuellement la meilleure. Mais je crois que, encore une fois, le retour sur l'histoire des 30 années de guerre au Soudan et de toutes les déclarations faites par les uns et les autres incite à une très très grande prudence sur le fond.